l'étude de Ezrat Hashem de Ashrei Yoshev Etecha. D'accord? Donc, l'ordre que je fais, en fait, dans le cours de la Tfila, c'est je prends à chaque fois des éléments clés de la Tfila. Donc, on a eu le temps de faire l'Anida, le Shema, Parour Shamar, les Brachot, donc les bénédictions du matin. Donc, différents éléments clés. Donc, là, le prochain élément clé après Parour Shamar, il y a différentes, voilà, il y a encore d'autres Tfilotes entre Parour Shamar et on a encore d'autres psukim, mais on va dire l'élément clé après Baruch Shamar, c'est Ashrei. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Ashrei? C'est que la Gemara Brachot nous dit la chose suivante, elle nous dit que celui qui dit Ashrei 3 fois par jour, d'accord, c'est un passe-droit pour entrer au Olam Haba, au monde futur. Alors quand on dit 3 fois par jour,
2 fois le matin.
alors on dit une fois maintenant, et la deuxième fois c'est quand?
Avant les nous le
Non.
Shabbat. Avant les nous le Shabbat.
Deuxième fois, c'est juste après, avant Ouvel Etzion,
Oui.
juste après l'Amida. Et la troisième fois, c'est quand? C'est Amintra.
Exactement.
C'est 3 fois. Donc on fait exprès de faire 3 fois. Pourquoi? Parce que celui qui fait 3 fois,
Azaka.
Mouftachlo, Shehu ben Olamaba, comme dit la Gemara, il a une assurance, il a un passe-droit pour entrer au Gan Eden. Par ailleurs, le commentaire du Avoudra nous explique que les psaumes, à partir de Ashrei Yoshev Etecha, jusqu'à
Bonjour, bonjour.
Kol Aneshama Tel El Kal Eluka, donc vous tournez Bokertov. Donc vous tournez quelques pages plus loin. Kol Aneshama Tel El Kal Eluka. Ici là. Voilà. Non, après encore. Après
Alléluia,
voilà,
beaucoup de
ici.
joie.
Jusqu'ici. Bon, ici, ils n'ont pas coupé en paragraphe, mais jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle l'essentiel, les psouké des Imra. Les versets dans lesquels on chante à Kadosh Baruch Hu.
Là, ils appellent louange. À
D'accord?
partir d'Ashrei, c'est les louanges.
Alors c'est plus que les louanges, c'est un chant d'Akadosh Baruch Hu.
Dit, non, je suis
C'est les
rien.
Tehillim, exactement. C'est les Tehillim.
Enfant.
Et le Avoudra, il nous dit que c'est considéré praklitim les tfilas. C'est comme des avocats. Parce qu'avant de rentrer dans le jugement, si on peut dire, on a besoin d'avocats. On a besoin de défenseurs, des gens qui vont être là pour nous aider quand on aura besoin d'eux. D'accord?
À
Donc
120 ans,
ça,
tu parles.
c'est à partir de Ashrei jusqu'à Kol Aneshama Tel Kal Eluka, c'est nos avocats. Alors, on va expliquer pourquoi, bien sûr, à chaque fois. Bon, alors maintenant, dans le Ashrei, il y aura un verset particulier sur lequel on devra s'assurer de comprendre la traduction. Et si on n'a pas compris la traduction, il faut recommencer le verset. D'accord? De quel verset je parle? Du verset qui dit Poteach et yadecha ou masbi'a lecholcha yiraton. D'accord? Donc on l'étudiera avec Zardachan, dans lequel on demande à Kadosh Baruch Hu d'ouvrir ses mains et de donner à tout le monde à manger. Parce qu'en fait, il faut savoir que la raison principale pour laquelle on fait Ashrei, c'est pour ce verset. Et la raison principale pour laquelle on fait tous les psaumes qui est autour, c'est pour arriver à ce verset-là. Donc c'est pour ça que c'est très important, au moins sur le verset de Poteach Chatyadecha, ou Masbia, Lecholcha Yiraton, très important pour ce verset au moins, d'avoir la kavana, de comprendre la traduction des mots.
Maintenant,
Faut comprendre,
en
comprendre au
fonction de
moins
ce
le sens.
verset-là, en fonction de ce que tu viens de dire, je comprends pourquoi des fois, il y a des gens qui font 3 fois ce même
Ben
verset.
oui, ben oui, parce qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas, on recommence. D'accord? C'est obligatoire, c'est une halakha dans Shulchan Aruch.
On ne comprend pas quoi? Juste ce verset?
Non, si une personne, il avait la tête ailleurs,
Ah, je
il se
comprends pas.
réveille, il est déjà 3 pages plus loin. Il revient et recommence. Ce verset. D'accord? Parce que c'est très important. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point sur le Hachri. Bon, alors, à part ça, donc maintenant on va développer d'autres points. On va développer d'autres points sur le Ashrei, je vais dire. Voilà. Maintenant on continue. Voilà. Ouais. Alors, il y a différentes choses que j'ai vues à propos du Ashrei. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, dans le Ashrei, nous avons 640 mots, 640 lettres. 640 lettres dans le Ashrei. 640 lettres qui correspondent aux 613 mitzvot, plus, combien il nous reste?
27.
27. 27, ça correspond à quoi? C'est quoi 27? C'est 22 lettres de l'alphabet. Plus les 5 lettres sophites. Même
Finalement,
sophites, donc les lettres finales. Donc c'est écrit comme c'est le Levouche qui dit ça, d'accord? Il dit que c'est justement, c'est pour nous montrer que le Hacheret est très important et que dans le Hacheret, en vérité, se cache beaucoup de choses. Donc on va essayer de développer ça ensemble. Ok. Alors, Ashrei Yoshev Etecha, heureux ceux qui sont assis dans ta maison. Alors, c'est intéressant ça aussi, Ashrei Yoshev Etecha, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Merci Avner. Beaucoup de gens qui pensent que Ashrei Yoshev Etecha, c'est un seul psaume. Alors, regardez, je vais vous montrer le temps de Tehillim, vous allez voir que c'est pas du tout comme ça. Le psaume 145, regardez. Psaume Kouf Memhei, il commence par quoi? Qu'est-ce que vous lisez ici? Regardez, regardez mon Tehillim. Teïla et David. Teïla et David. C'est quel verset du Ashrei Yoshev Etecha? Regardez vos livres. Prenez un livre, regardez. Ouvrez le livre, Ashrei.
Le troisième passage. Troisième phrase.
Non. Recommencez Ashrei Yoshev Etecha. Ashrei Yoshev Etecha od yochasela. Ashrei am shekachalo. Ashrei am shasham elokav. Troisième verset, c'est le verset qui s'appelle Teïla et David. Teïla et David, écoutez bien. Tehillel et David, c'est un nouveau psaume, c'est le psaume 145. D'ailleurs, ils l'ont bien découpé ici. D'accord, c'est les imprimeurs. Le psaume, le début, quand on dit Ashrei Yoshev Etecha od yaluchasela, d'accord, c'est même pas dans le psaume d'avant. Alors regardez, ce qu'on a à la fin du psaume 144, c'est Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shehashem Elokav, qui est le verset numéro Ashrei Ha'am Shekachalo, le deuxième. Très bien. Alors le premier, d'où il est sorti?
Vous avez dit Tehillim 84.
D'accord, mais quel rapport? Prends en pas. Alors après, c'est la suite. Après, ça continue dans le psaume 145. Donc on a ici psaume 84, d'accord? On a également le dernier verset du psaume 144. Et on a tout le psaume 145. On est d'accord? Alors prenez vos sidourines parce que sinon on va se perdre. On a sidourine, un livre de prière. C'est quelle page? Le patachéliot. Voilà. C'est page 90, ou bien avant, quoi. Bon, c'est le Ashrei. Peu importe où vous le trouvez. Alors, Ashrei Yoshev Etecha. Donc maintenant, on va dire le premier verset qui est dans le psaume 84. On est d'accord? Et on va essayer de trouver les rapports entre tous ces versets, parce que c'est pas simplement on a pris des versets au hasard, on les a mis ensemble. Bah oui. Un 84, un autre 144, un autre 145. C'est quoi l'ordre? On est d'accord? Alors, Ashrei Yoshev Etecha, heureux sont ceux qui sont assis dans ta maison. D'accord? Comment vous comprenez ici assis dans la maison? Ça veut dire quoi assis?
Synagogue, qui habite.
Alors, M. Benichou, il dit assis, ça veut dire habiter, oui. Yeshiva. Ça veut dire quoi aussi à part ça? Yoshev en hébreu, ça veut dire quoi?
Assis.
Ça veut dire assis. Oui. Donc je dis heureux ceux qui sont assis dans ta maison. C'est quoi la maison de Dieu?
La
synagogue.
C'est la synagogue.
Très bien. Ceux qui sont assis à la synagogue, mais ils font quoi? Ils prient.
Alors, ils étudient.
On ne devrait pas dire heureux soit ceux qui sont assis dans ta maison. On devrait dire heureux soit ceux qui prient dans ta maison. Quand tu dis assis dans ta maison, on a l'impression qu'ils sont là en train de chauffer les bancs. Bah oui.
Mais assis, c'est presque résider, presque.
Ah oui, mais c'est pas ce qui est écrit là.
C'est
d'accord. C'est écrit ici. Donc, Ashrei Yoshev Etecha. Heureux sont ceux qui sont assis dans ta maison. Oui, mais assis. Ça veut rien dire assis, ça ne veut rien d'être assis. Alors de là, on a un commentaire qui explique comme ça, un commentaire très intéressant. Il dit que, on a Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit que quand on va à la synagogue, il y a deux mérites différents. Il y a le mérite de celui qui vient mais qui ne fait pas. Il y a le mérite de celui qui fait mais qui ne vient pas. Et il y a le mérite de celui qui vient et qui fait. D'accord? Celui qui vient et qui fait la tfila. Bon. Oler VOC. Alors voilà ce qu'il dit ici ce verset. Il dit comme ça, il dit Ashrei Yoshev Etecha. Heureux sont ceux qui ont fait l'effort de venir à la synagogue pour s'asseoir. S'asseoir.
S'asseoir.
Ils n'ont rien fait maintenant, ils n'ont pas pris, ils n'ont rien fait du tout. Ils sont venus pour s'asseoir.
Compléter Minyan.
Pourquoi? Od Yel Luchasela. Ils finiront par savoir te prier.
Ah oui.
Vous voyez? Ouais, voilà pourquoi c'est important de dire ça avant de commencer. Bah oui. On sait très bien que dans la synagogue, vous avez des gens qui sont là, bon, pas tout le monde est là en train de prier, pas tout le monde est en train de tout prier, on dit, c'est pas grave. Laisse-le. Il est là.
Il va venir.
Tôt ou tard, il va venir.
C'est bien. Il continuera par faire. Alors que l'autre, celui qui fait sa prière à la maison, c'est pas forcément qu'il finira par venir à la synagogue. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Par contre, celui qui vient, il finira par savoir aussi comment prier. Laisse-le, c'est pas grave. Ashrei Yoshev Etecha. Heureux sont ceux qui sont assis dans ta maison. Oh, Yael Luchasela. Ils finiront. Yael Luchasela. Par te chanter. D'accord? Ça c'est une première explication. Une deuxième explication qui dit comme ça. Il dit non. Le Rod, ça veut dire comme ça. C'est pas que, on n'est pas en train de parler d'étapes ici. C'est-à-dire, première étape, on vient à la synagogue. Deuxième étape, on a dit, on participe, on prie. Non, c'est pas ça. On s'adresse à ceux justement qui sont assis à la synagogue sans prier. On leur dit, écoutez, Yoshvé Vetera, vous qui êtes assis ici sans rien faire, vous voulez encore plus profiter? Oh, encore! Vous savez, comme vous dites en Israël, oh, encore, vous voulez encore, vous voulez profiter encore plus de votre expérience à la synagogue? Yaleloucha, c'est là. Dites les mots. Car donc, moi, c'est deux explications qui sont à peu près dans le même sens. Mais qui veut dire qu'on encourage même les gens qui viennent sans comprendre ce qu'ils disent, sans même lire le texte.
Et c'est du français. Tu sais, assises, les fondations. Alors, heureux ceux qui sont... Bon, mais c'est pas du français, c'est d'hébreu.
Oui, mais encore une fois.
Tu recherches la racine.
Oui, mais on a eu la question de Léo.
Le tribunal aussi.
Ben, Léo, il a posé une question. Il a dit, mais je comprends pas, on vient pas à la synagogue pour s'asseoir. On vient à la synagogue
dans
pour prier.
Les fondations et avant sont tout, dans les racines ou les fondations de...
Oui,
avant tout pour compléter le minyan. Donc celui qui prie pas, moins il va...
Ben oui, c'est ce qu'on vient ici. Et celui qui vient, même uniquement pour être assis à la synagogue, heureux. Bien sûr. Même s'il ne sait pas prier, ou il n'a pas envie de prier, il dit bon, écoutez, moi je viens, j'écoute.
C'est comme...
D'accord, pas grave, laisse-le. Comme une fois, quelqu'un qui m'a dit, oui, tu sais, les gens qui viennent à la synagogue le samedi matin, il y en a plein qui viennent parce qu'ils ont envie d'écouter, ils ont envie de retrouver des amis, ils ont envie d'écouter le chazan, enfin pas dans cette synagogue peut-être, mais ils ont envie, ils viennent pour ça, c'est pas grave. D'accord. Ashrei Yoshvé Vetera, heureux sont ceux qui sont... Il est assis, il est là, il est présent,
très bien. Il a un bon
kiff aussi, des fois. Ensuite, Ashrei Ha'am Shekachalo. Heureux le peuple, Shekachalo, d'accord, qu'ainsi lui en est. Ça veut dire quoi qu'ainsi lui en est? Ça veut dire qu'il a des gens... Heureux le peuple, donc on parle de nous, de Ham Israël. Shekachalo, qu'ainsi lui en est, ça veut dire que ceux qui font partie de ce peuple viennent à la synagogue pour au moins être à la synagogue. Et en plus, d'autant plus, s'il remercie Akadosh Baruch Hu. Heureux le peuple, chez Kachalo, qui peut dire que mes fidèles viennent à la synagogue. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Ashrei Ha'am, chez Hachem Elokav. Heureux le peuple, d'accord, chez Hachem Elokav, que Hachem est son Dieu. Alors, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, encore une fois, là, on a dans les deux directions. Vous avez des peuples qui n'ont pas de Dieu, mais qui sont fervents. C'est-à-dire qu'ils sont fervents, ils viennent tous les jours dans leur temple. D'accord? D'un autre côté, vous avez des peuples qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas fervents. C'est deux choses complètement différentes, indépendantes, qui n'ont rien à voir. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent dans le deuxième verset? Et c'est pour ça qu'on a pris ces deux versets, on les a collés ensemble, parce que c'est la même idée. Ashrei Ha'am Shekachalo. Heureux le peuple qui est fervent et qui continue de venir à la synagogue. Tu veux dire, oui, mais ils sont fervents, mais leur Dieu, il n'y a rien. Non! Ashrei Ha'am Shachem Elokav. Mais de l'autre côté, ils ont un Dieu sérieux aussi. Donc on a les deux conditions réunies. D'accord, un dieu entre guillemets sérieux et un peuple qui suit. C'est deux conditions extraordinaires, parce que comme j'ai dit, des fois on a des peuples qui ont une des deux conditions. Soit ben, ils suivent pas un dieu sérieux, ils suivent des bêtises, ou soit ils suivent Akadosh Baruch Hu, mais ils sont pas sérieux. Nous on est les deux en même temps. D'accord, donc vous êtes toujours dans la même direction de Ashrei Yoshvé Vetera. On parle justement de ces gens-là qui sont peut-être assis à la synagogue uniquement en train d'être là, c'est tout. Ils sont présents. C'est pas grave. D'accord, parce que Akadosh Baruch Hu est content de ça, voilà, on a un Dieu sérieux et on est fervent. D'accord ?
Bien la synagogue.
Bien sûr. Vous voyez les délais de ce qu'on veut dire ? Bon. Ensuite. Tehila et David. D'accord ? Donc c'était une introduction, en vérité. C'est pour ça qu'ils ont bien fait ici, ils l'ont découpé. Parce que le Ashrei Yoshvé Vetera, en vérité, c'est une introduction à Tehila et David. C'est une introduction. Le psouké des Imra, il démarre en vérité par Tehilal et David. Parce que ça, c'est le psaume 145. C'est là-bas que ça commence. 145, 146, 147, 148, 149, 150. Ça, c'est le psouké des Imra. Maintenant, il y a une introduction. Dans cette introduction, on va dire, nous, on va chanter. Mais il y a des gens qui vont peut-être pas chanter. Mais ils seront là. Heureux. C'est bien ce qu'ils font. D'accord ? On a un Dieu sérieux et on a un peuple sérieux. Maintenant, on commence le psouké des Imra. Tehilal et David. Aromimra et le Kayameler. Donc Tehila, c'est une louange. Les David pour le roi David. D'accord, donc jusqu'à la fin du... Vous savez que le roi David en Tehilim, il y a soit des psaumes qu'il a écrits lui-même, soit des psaumes qu'il a repris. D'accord, comme Mizmor les Asaf, comme les... Il y a plusieurs Mizmorim, d'accord. D'ailleurs, vous remarquez même que des fois c'est écrit dans le Tehilim, les David Mizmor, et des fois c'est écrit Mizmor les David. C'est quoi la différence?
Qu'il a repris et l'autre c'est lui qui l'a écrit.
Non.
Mizmor le David, c'est lui qui l'a
écrit. Vous verrez dans le Tehilim, voilà. Je prends le Tehilim, regarde. Saint-Élimoine. Voilà. Lishlomo. Voilà. Ça, c'est un psaume que le roi David a, après, que le roi David a dédié à son fils Shlomo Améler. D'accord. L'Amnatser, Mizmor le David. Ah, là c'est écrit Mizmor le David. D'accord.
Le sien.
Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore. On a pas mal de lignes qui n'appartiennent pas du tout au roi David.
C'est Pilel David.
D'accord. Bon, enfin, je fais Mizmor le Asaf. C'est un psaume qui reprend. C'est un psaume Asaf, d'accord. On dit que c'est Adam Harishon. Donc ça n'a rien à voir avec lui. Il reprend un verset de l'Amnatser avec dit le Asaf. Très bien. Alors, quelle est la différence entre Mizmor les David et les David Mizmor? On va traduire en français.
Mizmor les David.
C'est quoi Mizmor les David? Mizmor, c'est quoi un Mizmor en hébreu? C'est un chant. Et les David, donc, Mizmor les David, un chant pour David ou pour David un chant. C'est quoi la différence? Alors, la Gemara Psachim explique comme ça. Il explique que le roi David, tellement c'est précis le Tehilim. C'est, ça dépendait, est-ce que c'est le psaume qui lui a amené l'inspiration, ou c'est l'inspiration qui lui a amené le psaume. C'est-à-dire comme ça. Des fois, par exemple, vous allez chanter une chanson d'amour. Bon, mais la question c'est, le sentiment d'amour, il est venu quand? Est-ce que c'est le sentiment d'amour qui m'a inspiré à la chanson, ou est-ce que c'est la chanson d'amour qui m'a inspiré l'amour?
Ouais, tout à fait.
Eh ben oui. Qui a entraîné qui? C'est qui l'œuf et la poule ici? D'accord?
Ça peut être
les deux. Eh ben non, justement. Soit l'un, soit l'autre. C'est soit le roi David, il était déjà dans une situation qu'il aimait à Kadosh Baruch Hu, et donc inspiré comme il était, il a composé le Tehilim, ou soit au contraire, il a écrit un Tehilim pour au contraire essayer de s'inspirer, et suite à ça, aimer à Kadosh Baruch Hu. Mizmor les David, et David Mizmor. Bon, c'est une parenthèse, d'accord? Là, on est à Tehila les David. Une louange à David, c'est-à-dire que le roi David ici essaye d'être inspiré. D'accord? Il essaye d'être inspiré, et donc il va écrire une louange qui va l'aider à être inspiré. On est d'accord? C'est comme Mizmor les David. Il va faire un mizmor, et ce mizmor va l'aider à être inspiré. On est d'accord? Tehila les David. Donc on reprend le... Voilà. Tehila les David. Donc une louange du roi David. Il essaie d'être inspiré. Aromimcha Elokai Amelech. Alors, à partir d'ici, vous allez remarquer, d'accord, que on va suivre les lettres de l'alphabet en sautant quelques lettres. Donc à partir d'ici de Aromimcha Elokai Amelech, d'accord, Aromimcha, c'est le... Ça commence par un Aleph. Après, Bechol Yom, Gadol Hashem, Dor les Dor, Hadar Kevod. Donc on va suivre les lettres de l'alphabet.
Sauf le Noun.
Sauf le Noun, sauf le Samer aussi. D'accord? Sauf le Noun, non. Sauf le... Non, le Samer, il est là, il y a une autre lettre qui manque encore. Noun, Samer, Aïn, Fé. Oui, il n'y a que le Noun. Le Samer, c'est dans un autre psaume. Alors. Donc, Aromimcha Elokai Amelech. Je vais Aromimcha. C'est quoi Aromimcha? Romem. Romem, ça veut dire élevé. Je vais élever mon Dieu, le roi. Ça, c'est le roi David qui parle. Vava Rashimcha Leolam Vaed. Et je vais bénir ton nom à jamais. Alors, de quoi il parle ici? Alors, les commentaires expliquent comme ça. Ils expliquent ici qu'en vérité, le roi David, de quoi il parle? Il parle ici de ce monde-ci et du monde futur. D'accord? Donc, où j'en étais? Attendez, il faut pas que je perde. Oui. Voilà. Aromimcha. Aromimcha Elokai Ameler, Vava Hashimcha Leolam Vaed. Voilà. Donc, tous les jours. Attendez, voilà. Je vais. Oui, non, c'est pas ici. Seconde. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, là, on va avoir maintenant différents versets qui vont nous parler de ce monde-ci et du monde futur. D'accord? Donc, on a le premier verset qui nous dit comme ça. Je reprends le verset. Aromimcha Elokai Ameler. Je vais donc t'élever et te louer, mon Dieu, le roi. Ça, c'est dans ce monde-ci. Va avara shimcha le lam vaed, et je bénirai ton nom à jamais. À jamais, ça veut dire quoi quand on dit à jamais en hébreu? À jamais, quand on dit à jamais, ça veut dire qu'on fait appel à quelque chose qui n'est pas maintenant. Comment c'est en français quand on dit à jamais?
L'éternité.
On parle de l'éternité. Donc, ce monde-ci, le monde futur. Next, on continue. Bechol yom avarecha.
Tous les jours.
Tous les jours. Je te bénirai, donc tous les jours, on parle de quelque chose de futur ou de quelque chose d'actuel?
Actuel.
Actuel,
tous les jours.
D'après vous?
Tous les jours.
Tous les jours, on parle de quelque chose d'actuel, quand j'ai tous les jours.
Chaque jour.
C'est aujourd'hui. Ensuite, va halel hashimcha l'olam va'ed, et donc je vais louer ton nom, l'olam va'ed, à jamais. Donc à jamais, là on parle de quoi? Du olam haba. Ça veut dire qu'on va dire c'est un souhait qu'on est en train d'émettre à Kadosh Baruch Hu, on est en train d'émettre un souhait qu'on puisse le chanter au Gan Eden de la même manière qu'on vient ici à la synagogue. Eh ben oui, c'est que ici on est présent et on aimerait être présent en haut aussi. Vous voyez, du style, on vient en haut, on dit ah non, vous à côté, vous. Mettez-vous spectateur. On dit non. Ici on participe, on aimerait participer aussi en haut.
Voilà.
C'est ça. Donc on a eu deux versets ici qui disent à peu près la même chose. Ils disent que on le fait ici, on a envie de le faire en haut. Après bon, après on va avoir des nuances de mots, d'accord? Si je dis louer ou bénir ou... C'est, bon, après c'est des nuances, mais l'idée est là. C'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu ce monde-ci, le monde futur. On commence à comprendre maintenant pourquoi la Gemara Brachot nous a dit que celui qui dit ce psaume trois fois par jour, qu'est-ce que j'ai dit au début du cours, c'est un face droit pour entrer au
Olamaba.
Bien sûr, on parle de ça là maintenant. On va parler du Olamaba là, on est en plein dedans. Vous voyez, c'est pas écrit explicitement, mais quand on rentre dans les détails, c'est écrit. Ensuite, on continue.
Gadol
Hashem ou Meulal Meod. Ah, ça c'est très important. D'accord. Gadol Hashem. Bien que moi je suis en train de louer à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le problème qu'on a? C'est que quand on se met à louer quelqu'un et donc à apprécier quelqu'un, à émettre une appréciation sur quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va croire qu'on est d'égal à égal avec lui, qu'on est au même niveau que lui. Ah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire quand je me mets à donner une note à quelqu'un, on est en train de donner une note à Kadosh Baruch Hu, c'est en vérité. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc quand je note quelqu'un, bah, ça veut dire que je suis au même niveau que lui. Si c'était même plus haut que lui, on est d'accord? Bah oui, on est en train de le louer. Donc si je te loue, ça veut dire que je suis au moins à ton niveau. Que je suis capable de t'analyser d'égal à égal. Soit qu'on dit non, attention. Gadol Hashem, ou Meulal Meod. Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que ce qu'on peut le louer. Rien à voir.
Bien sûr.
D'accord? Rien à voir. Et que, comme explique ici le commentaire du HCC, il dit que c'est quelque chose qui n'a rien à voir ni en quantité, ni en qualité. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire comme ça, on a l'infini, je ne vais pas faire des maths, mais vous êtes toujours avec moi? Bon. On a l'infini quantitatif et l'infini qualitatif. Allez, imaginez-vous que je vous dis comme ça. Imaginez-vous que je vous dis que moi j'ai un verre et Dieu il a un nombre infini de verres. D'accord? Ça c'est un infini quantitatif. Pourquoi c'est un infini quantitatif? Très simple. Parce que ça veut dire que en quantité, Akadosh Baruch Hu, il a autant de verres qu'il veut. Mais en qualité, la qualité de chaque verre, tu prends chaque verre séparément. Oui? Eh ben, c'est un verre. C'est un verre qui est physique, qui est comme les autres. On est d'accord? Je donne un exemple, je vais expliquer encore. Ça, c'est quelque chose que le Mourazaken explique longuement dans le Tanya. Enfin, je peux pas refaire des cours entiers de Tanya, mais je vais juste expliquer cette notion-là. C'est une notion qui est importante, puisque c'est d'ici qu'elle est tirée. On va prendre, par exemple, vous prenez 1 par rapport à 1 million. Quel est le rapport de 1 par rapport à 1 million?
C'est une entité chacun.
Quel est le rapport de 1 par rapport à 1 million?
Il fait partie du
million. Bah 1, ça a une valeur. Pourquoi 1, ça a une valeur? Parce que pour faire 1 million, il faut 1 million de 1.
Exactement. Si tu retires
et si tu enlèves 1,
t'as plus 1 million.
Eh ben j'ai plus 1 million. Ouais. Donc le 1 a son importance. Donc vous voyez que l'infini quantitatif, finalement, c'est limité. Parce que c'est infini en quantité, mais finalement, chaque particule a son importance. On a ce qu'on appelle l'infini qualitatif. C'est quoi? C'est que, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut créer autant de verres qu'il veut. C'est qu'Akadosh Baruch Hu peut créer un verre, mais que la qualité de ce verre fait qu'il soit infini. C'est complètement autre chose. Ça, notre cerveau n'est pas conçu pour ça. Et c'est justement ce qu'il veut dire ici le roi David. Il veut dire Gadol Hashem ou Meulal Meod. Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que nous. Mais c'est pas seulement qu'il est plus grand en quantité. Que moi je suis petit et lui il est grand. Non.
Qualité aussi.
C'est même en qualité, c'est-à-dire que même s'il était petit comme moi, petit comme il était, ça aurait été déjà... Il aurait été déjà infini. C'est pas seulement qu'il est plus grand que moi en quantité. Pourquoi c'est important d'expliquer ça? Parce que si je vous pose la question, par exemple, quelle est la différence entre nous, entre moi et Monsieur Sarkozy? C'est quoi la différence?
C'est juif. Et
c'est une différence de quantité.
Non, il est juif.
D'accord. Mais je parle par rapport au pays, par rapport à la France. C'est une différence de quantité. C'est que moi j'impacte très peu la France et lui il impacte beaucoup la France, énormément la France. C'est une différence de quantité. Mais c'est une différence qui est très grande, certes. D'accord? Mais pour arriver à M. Sarkozy, il faut beaucoup de d'individus comme moi, sinon il n'y a rien du tout.
Exactement.
D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose.
C'est
pas qu'il est plus grand que moi, qu'il ait plus de pouvoir que moi. C'est plus que ça.
Le roi a besoin de son peuple.
C'est que même s'il était aussi petit que moi, il est forgé, d'accord? Il est formé d'une autre matière. D'une matière qui fait qu'il n'a rien à voir avec moi, qu'il est beaucoup plus haut que moi. Ça c'est autre chose. Vous savez où on explique cette différence-là juste pour vous donner un exemple, parce qu'il faut toujours trouver un exemple. On explique en chassidut, on dit c'est comme la différence qu'il y a entre, imaginez-vous que vous avez dans la même salle trois personnes. Vous me dites si vous me suivez toujours? Bon. Imaginez-vous que vous avez dans cette salle trois personnes. une personne qui est très intelligente, d'accord ? Moi, je monte la table. Hein. Une personne qui est très intelligente, une personne qui est peu intelligente, bon, qui est, il est un peu intelligent.
Benoni.
Non, il est un peu intelligent, et une personne qui est complètement bête, paysan. D'accord ? Imaginez-vous trois personnes. Lève-toi pour le premier. Ah, il dort ce matin. Alors, imaginez-vous que vous avez trois personnes. D'accord ? Ah, il ne s'assoit pas, Bon, on est d'accord ? Donc je répète, imaginez-vous, on a trois personnes. Vous avez un très intelligent, un peu intelligent, et un autre archibête. On est d'accord ? Bon. Alors, ce qu'on explique en Rassilut, c'est comme ça. Celui qui est peu intelligent et celui qui est très intelligent, ils peuvent communiquer entre eux. Après, ils peuvent communiquer. Parce que c'est vrai que l'autre, il est beaucoup plus intelligent, c'est un génie.
Il peut se mettre à son
mais, niveau. Non, mais c'est pas seulement ça. Les deux ont de l'intelligence. Donc, l'intelligence peut communiquer. Il y a un point commun. Par contre, tu prends l'intelligent, tu prends ces deux qui sont intelligents. Celui qui est soit très intelligent ou celui qui est un peu intelligent. Et tu essayes de les faire communiquer avec le bête. C'est pas compatible. D'accord, c'est pas compatible, il peut même pas communiquer. Et c'est rien à voir avec la quantité, parce que et celui qui est très intelligent, et celui qui est peu intelligent, dès qu'il voit le bête, il dit, mais il est bête celui-là.
Communiquer pourquoi ? Pour leur expliquer les bases.
Bah, pour expliquer,
s'il est
voilà.
Vraiment, si l'autre est vraiment intelligent, il faut qu'il se mette au niveau de
celui-là. Ben oui, d'accord, j'ai compris.
Sinon il est pas intelligent.
Mais l'autre il est khmar, il n'y a rien à faire.
Ça me plaît.
Oui, je montre personne du doigt. Bon, alors, attendez.
C'est rassurant.
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple ? On voit quoi ? On voit que la différence de quantité, c'est quoi ? C'est entre celui qui est très intelligent et celui qui est peu intelligent. Mais après, on a une différence de qualité. C'est entre celui qui a accès à l'intelligence et celui qui n'a pas du tout accès à l'intelligence.
D'accord.
Et vous voyez qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on veut dire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ah, bien sûr, Kadosh Baruch Hu, c'est pas le bête ici. Non, ça sera de Shalom. Ce qu'on veut dire, c'est que nous, la différence entre les hommes, c'est un, il est un peu plus, un, il est un peu moins, d'accord ? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est un autre registre. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est plus grand que moi. Bon, moi, je suis un peu intelligent, lui, il est très, 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 très intelligent. Non, ça n'a rien à voir. C'est un autre registre. Gadol, Hashem ou Moulal Meod.
Un être humain comme nous.
D'accord ? Un être humain comme nous ?
Bah, oui, même qu'il n'est pas intelligent.
C'est ?
Même qu'il n'est pas intelligent.
Il parle
non. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, mais je parle de la communication entre les deux. Essayez de parler avec quelqu'un, avec un simplet. Impossible. Vous pouvez lui demander de faire des choses. Essayez de lui expliquer quelque chose. Il comprend pas. Ça rentre pas.
Il le fera sans comprendre.
D'accord. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de tête. Il est bête, il est khmar.
Il le fera sans comprendre. C'est ça, il le fera sans comprendre.
Voilà, c'est comme essayer d'expliquer quelque chose à un âne.
Il est pas intelligent, il est âne.
Voilà. Non, 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 un vrai âne.
Ah bah oui,
un vrai âne. Un bourricot. Essayez de lui expliquer quelque chose. Il va rien comprendre.
Les bourricots.
D'accord. Alors, je continue. Donc, Gadol, Hachem.
Shlomo Ameler, il réussissait à parler aux animaux. Il parlait.
Oui.
Communiquer.
Oui. C'est, effectivement. D'accord. Donc, Gadol, Hachem, ou Meoulal Meod. Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que nous. Mais c'est pas seulement. Alors j'aurais pu penser que c'est une grandeur. Comment il est plus grand que moi en quantité. Il te dit non. Veligdulato en cheker. Sa grandeur ne peut pas être, d'accord,
mesurée,
étudiée, calculée. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est un autre registre. Que Dieu est très grand. Je dis bon, ça va, moi je suis un petit peu, lui il est très grand. Très 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 grand. Non. Veligdulato en cheker. Sa grandeur ne peut pas être mesurée, c'est autre chose. Donc on te dit, écoute, je te préviens, tu vas te mettre à louer à Kadosh Baruch Hu. C'est le roi David qui dit, on va se mettre à louer à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais avant même de commencer, je lui dis, calme-toi. Ne crois pas que parce que tu vas commencer un petit peu à comprendre, tu vas tout comprendre. T'as rien compris. C'est ce que tu peux comprendre. Bon, très bien, pas de problème. On se laisse, on te l'accorde. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec la réelle grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On fait encore un verset, on s'arrête.
C'est à l'infini, c'est sûr que tu peux pas...
Ah ben non !
Non.
Non, justement, parce que j'ai expliqué la différence entre l'infini quantitatif et l'infini qualitatif. Dans l'exemple que je dis, imaginez-vous, vous en avez un qui est un peu intelligent, et l'autre qui est intelligent à l'infini. À l'infini. Oui, mais quand même, ils peuvent communiquer entre les deux. Et que celui qui est peu intelligent, il se sent lié à celui qui est très intelligent. Parce qu'il va dire, oui, c'est vrai que lui, il en a à l'infini, mais moi, j'en ai un petit peu aussi.
Voilà.
J'ai un petit peu, j'en ai. J'ai quelque chose. Quand vous avez... Quelqu'un qui est sur un autre registre, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. D'accord ? C'est ça ce qu'il veut dire ici quand il dit Vigloton Reker. Comment il traduit ici Reker ? Et sa grandeur ne peut pas être recherchée.
Ne peut être mesurée
par une recherche. Exactement. Impossible.
On ne peut pas la mesurer, ça veut dire.
Non, impossible à mesurer, parce que je peux mesurer seulement quelque chose que je connais. Par exemple, d'où je sais que comment je peux dire que celui-là, il est très intelligent. C'est parce que moi, je suis un petit peu intelligent, et je vois qu'il a plus d'intelligence que moi. Donc je dis, d'accord. Donc je dis, moi j'en ai un peu, et je vois qu'il en a beaucoup plus que moi. Mais si c'est quelque chose que je n'ai pas, impossible de juger une autre personne, impossible. D'accord. Alors, on fait encore un verset, on s'arrête. Dor les dor, yeshabar ma'asecha. De génération en génération. Ah, de quoi on parle ici? Donc on voit encore une fois. Génération en génération, donc on parle encore une fois. C'est quoi génération en génération? On fait appel encore une fois à ce monde-ci. D'accord. Le monde futur. Mais là, on ne parle pas seulement de ça. On parle également de la communication entre les personnes du troisième âge et les jeunes. Dor les dor. Ça veut dire que les anciens apprennent aux jeunes. Yeshabar ma'asecha. À remercier et à louer à Kadosh Baruch Hu pour ses actes. Ça veut dire que les anciens vont dire aux jeunes, ils vont dire, regarde, tu vois le monde qui tourne autour de toi, tu crois que c'est normal, ça tourne, toi tu es né, tu crois que c'est normal, mais apprends à Yeshabar Masecha, à louer à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il a fait. D'accord ? Et ça, c'est écrit que c'est les anciens qui apprennent aux jeunes. C'est comme ce Kohen. Nous, les jeunes, on vient dans un monde, on croit que tout est là, tout est prêt. D'accord ? Et tout est acquis. Et après, les anciens qui vont venir vont dire, écoute, rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est acquis. Tu marches, tu te lèves, tu dors, tu respires. Remercie à Kadosh Baruch Hu pour chaque chose. C'est avec l'expérience qu'on apprend que rien n'est acquis. Et donc c'est pour ça que d'or les d'or, la génération transmettra à la génération suivante, donc les anciens transmettront aux jeunes, Yeshabar Masera, et transmettront leur expérience qu'ils ont vue dans leur vie, et donc le fait que rien n'est acquis, d'accord, et qu'il faut constamment louer à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'on a. Ugvorotecha Yagidou. D'accord. Et pas seulement ça, c'est que les anciens ne vont pas raconter seulement leurs propres expériences, ils vont raconter également les expériences qui leur ont été racontées par leurs ancêtres. D'accord. Donc vous voyez qu'ici dans la Torah, on accorde une grande, grande importance aux personnes âgées. À l'expérience, au savoir. Non, c'est pas seulement un respect. C'est pas seulement un respect. Non, attention. Il y a d'autres religions dans lesquelles on nous parle du respect. On dit oui, il faut respecter parce qu'un jour tu deviendras comme ça aussi. Là, c'est pas seulement un respect. C'est qu'on accorde une grande importance au savoir et à l'expérience.
De le savoir, ouais.
Le chacham.
Comment il m'a dit, quelqu'un une fois, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, un vieux, un jour, il était jeune. Et de la jeunesse, il a appris à amener la vieillesse. Très profond.
Ouais, c'est bon, oui. C'est bon.
Il était jeune aussi un jour, qu'est-ce que tu crois? Un jour aussi, il faisait le malin comme toi. Quoi, les parents.
Ça les étrasse, hein.
C'est comme les jeunes. Les jeunes, quand on est jeune, on est adolescent, on est persuadé que les parents, ils se trompent. D'accord?
Mais les parents
aussi, un jour, ils sont adolescents.
Quand je te vois assis, là, en train
à venir,
de...
t'es d'accord?
C'est ce que nous disent nos enfants. C'est ce que nous disent nos enfants. N'oubliez pas, vous étiez aussi.
Mais oui! Donc, les parents étaient dit, attends, un jour, moi aussi, j'étais adolescent, et maintenant, je sais ce que c'est l'adolescence, et maintenant, il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc, écoute-moi.
C'est toi qui nous conseille. Je t'ai vu en choc. Tu te souviens? Quand on était à Yavne, tout petit.
Moi, je ne connais personne, moi. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, donc je conclue avec ça. Donc voilà, ici le roi David ici, il témoigne qu'il a appris beaucoup, il a pris beaucoup d'expérience des anciens et de l'expérience que les anciens ont raconté qu'eux-mêmes avaient appris de leurs ancêtres. D'accord ? C'est-à-dire qu'on accorde une grande, grande importance à l'expérience, puisque sans l'expérience, on ne peut pas réellement être capable de louer et de remercier à Kadosh Baruch Hu. On vient, on croit que tout est acquis, on a besoin des anciens qui viennent ici nous expliquer des choses, c'est seulement grâce à ça qu'on peut apprécier ce qui se passe autour de nous, et là on peut louer à Kadosh Baruch Hu.
Une petite chaîne, ouais. Qui sommes-nous, des trois personnes que tu as mentionnées? Très intelligent et de belle, qui sommes-nous?
On est tous un peu intelligents.
Ce matin, on est un petit peu endormi.
Est-ce qu'on est aussi un petit peu bête? Non, mais est-ce qu'on est un petit peu bête des fois?
On est un petit peu intelligent aujourd'hui.
Il y a des moments où on est aussi un petit peu bête.
Pas trop.